et à toutes. Merci de votre présence pour cette discussion entre Justine Lacroix et Michel Rocard sur les institutions européennes sont-elles démocratiques ? On ne va pas faire un état des lieux des institutions européennes. On ne va pas faire une séance d'analyse administrative, bien sûr, de l'Europe. Ce n'est pas un sujet qui pourrait suffisamment nous passionner, je pense. Je crois qu'il faut reprendre le sujet de l'Europe par rapport à la question générale de notre rencontre de réinventer la démocratie. En effet, la question qui peut nous intéresser serait de savoir en quoi l'Union européenne aide-t-elle à penser des institutions ou des formes de délibération, de décision et d'action pour l'échelle globale, pour des défis qui vont concerner en fait l'ensemble de la planète et dont on va parler. L'Europe est-elle une préfiguration, une esquisse intéressante ou peut-être au contraire une esquisse ratée pour la coopération internationale ou pour une autre forme de faire de la politique, de la décision collective. Bref, l'Europe, comme il est écrit dans le texte de présentation de notre débat, peut-elle être un laboratoire, un lieu d'invention démocratique qui, au-delà de ses enjeux propres, des enjeux intra-européens, je dirais, peut être une source d'inspiration pour des défis plus larges, peut-être mondiaux. Ou peut-être s'agit-il, à l'inverse, d'une aspiration déplacée. Peut-être est-ce là placé dans l'Europe un espoir auquel elle ne peut pas répondre. Ce qui reviendrait à demander à l'Union davantage que ce qu'elle peut donner, ce qui nourrirait finalement un scepticisme assez fort sur l'Europe, qui est peut-être justement la situation à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, nous allons traiter notamment ces deux aspects, l'Europe comme invention démocratique elle-même et l'Europe plus largement comme laboratoire, source d'imitation pour d'autres réinventions qui sont encore à venir pour la démocratie. Donc, je vous présente très rapidement les deux intervenants. Justine Lacroix, qui est professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Elle a publié plusieurs ouvrages sur l'Europe, mais dont le plus récent que je vous recommande, qui est à la librairie, s'appelle « La pensée française à l'épreuve de l'Europe ». Et donc c'est elle qui commencera les interventions. Et puis Michel Rocard, évidemment que vous connaissez tous, ancien Premier ministre et ancien député européen, qui est aussi se passionne maintenant pour la question de l'Arctique et de l'Antarctique, puisque vous êtes ambassadeur pour les pôles. Donc je donne d'abord la parole à Justine Lacroix.
Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Alors, pour ouvrir la discussion, au fond, sur la question qui nous rassemble aujourd'hui, les institutions européennes sont-elles démocratiques ? Il m'a semblé utile de commencer très brièvement par vous exposer, au fond, une thèse qui n'est pas de moi, qui est celle d'un des meilleurs spécialistes contemporains de l'intégration européenne, Andrew Morajvic, qui est professeur à Princeton. Alors pourquoi est-ce que je vais commencer, encore une fois, brièvement, puisque comme on l'a dit, il ne s'agit pas ici de rentrer dans le détail du fonctionnement des institutions, mais enfin, quand même, j'aimerais commencer par la question qui nous est posée. Eh bien parce que cette thèse, elle a pour intérêt de répondre de façon très directe, voire pour certains, diront peut-être un petit peu provocatrice, à la question qui est la nôtre aujourd'hui, et je crois que l'intérêt d'un forum comme celui-ci, c'est aussi de faire passer certaines idées élaborées dans des arcanes spécialisées vers un public plus citoyen. Et d'autre part, je dirais, j'adhère assez largement à ce point de vue, assez provocateur, mais j'aimerais le nuancer par une réflexion sur la citoyenneté européenne pour poursuivre notre réflexion sur les modes d'approfondissement de la démocratie. Alors, que nous dit Morajvic ? Eh bien, très simplement, que finalement, le déficit démocratique européen dont on ne cesse de nous rabattre les oreilles que ce déficit démocratique, c'est un mythe. Et un mythe. Et il avance trois grands arguments. Le premier consiste à montrer que l'Union européenne fonctionne finalement de façon relativement démocratique, voire souvent de façon plus démocratique que ses États membres. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand on observe le fonctionnement, les modalités de prise de décision au sein de l'Union européenne, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on voit très vite que la prise de décision est divisée entre plusieurs institutions, supranationales, Conseil des ministres, Commission, Cour de justice, mais aussi cette prise de décision est divisée entre autorités nationales, autorités locales, autorités européennes. Et donc finalement, le système fonctionne d'une manière telle qu'il est pratiquement impossible, contrairement à ce qu'on entend souvent, qu'il est pratiquement impossible de légiférer rapidement et en secret. Le système ne fonctionne que quand il y a un certain degré de consensus entre les différents acteurs. Et toute personne qui a travaillé dans les institutions européennes sait qu'on peut très facilement suivre en direct le processus d'adoption d'un texte européen. Ce sont en réalité des institutions beaucoup plus transparentes que nos institutions nationales. Alors ça, c'est le premier argument sur le caractère relativement démocratique des institutions européennes. Mais vous allez me dire aussitôt, bon, tout cela est bien, est bel et bon. Le problème, c'est peut-être pas que vos institutions soient formellement démocratiques. Le problème, c'est que l'Europe n'est pas ressentie comme démocratique, qu'elle souffre d'un problème de légitimité, qu'il y a un rejet de l'Europe qui s'exprime. Alors, ça m'amène au deuxième argument de cette thèse. Rajvik, qui est brillant, qui a réponse à tout, va au fond contester cette idée reçue aujourd'hui selon laquelle l'Union européenne ferait aujourd'hui l'objet d'un rejet, qu'elle souffrirait d'une véritable crise de légitimité. Et il s'appuie sur un certain nombre d'études, notamment de sondages qui ont été faits en 2007, qui montrent que finalement le degré de confiance dans les institutions européennes est souvent plus élevé que le degré de confiance dans les institutions nationales. En 2007, 48% des Européens faisaient confiance à l'Union européenne contre 34% à leur gouvernement national. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ces études, nature quantitative des sondages, sont en quelque sorte confirmées par un certain nombre d'études qui ont été faites récemment par notamment un groupe de sociologie politique mené par Sophie Duchesne de Sciences Po, donc des études qui ont conduit au fond à tenter de discuter de l'Europe avec des petits groupes de participants dans plusieurs villes européennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces études, au fond, tentent à réfuter, à nuancer fortement l'idée reçue selon laquelle il y aurait aujourd'hui une coupure entre des élites qui seraient très pro-européennes et des classes populaires et moyennes qui seraient hostiles à la construction européenne. Autrement dit, l'idée selon laquelle il y aurait aujourd'hui une sorte de souverainisme ou de nationalisme populaire opposé à un européisme des élites ne se vérifierait pas. Selon ces résultats, il y a bien un fossé social sur les questions européennes, mais ce fossé ne tient pas tellement à une opposition entre pro et anti-européens qu'à un différentiel d'intérêt sur les questions européennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on constate une absence dramatique d'intérêt et d'attention pour les questions européennes au sein des milieux populaires ou des classes moyennes. Il est très difficile de les amener à débattre de ces enjeux, à avoir un désaccord sur les questions européennes. Autrement dit, finalement, le problème n'est pas tant que les gens rejettent l'Europe, mais qu'ils lui soient indifférents. La principale difficulté auquel on serait confronté, ce n'est pas l'euroscepticisme que l'euro-indifférence. Mais du coup, ces études m'amènent donc au troisième argument qui forme donc le cœur de la thèse de Moravec, mais aussi de tout un courant très influent dans la science politique anglophone, et qui consiste à dire finalement c'est normal que les gens soient peu mobilisés par les élections européennes, c'est normal qu'ils participent peu aux élections européennes, parce que finalement les questions européennes sont des questions qui ne sont pas saillantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des questions qui ne sont pas saillantes ? Ça ne veut évidemment pas dire des questions qui ne sont pas importantes. Les enjeux européens sont évidemment des enjeux très importants, mais les enjeux saillants, ce sont ces enjeux qui sont susceptibles de mobiliser les électeurs, de les politiser, d'entraîner des transformations de majorité. Et ce sont toutes les questions liées à la sécurité sociale, aux pensions, à la santé, aux impôts, à l'éducation, etc. Et on oublie trop souvent que l'Union européenne ne joue pratiquement aucun rôle dans ces domaines, que la redistribution sociale opérée par les institutions européennes est de moins de 2% du PIB, et que le pourcentage des lois nationales qui trouvent leur origine à Bruxelles, on a longtemps agité le chiffre de 80%, c'est faux, le chiffre est de 10 à 20% et il n'augmente pas. Et donc, à partir de cette donnée, si vous voulez, l'argument de ces penseurs, de ces politistes, qui n'est pas tout à fait le mien, j'y viens dans un instant, consiste à dire, mais finalement c'est normal, la nature même de l'Union européenne ne peut susciter qu'une forme d'indifférence, compte tenu que le temps et l'énergie des électeurs est limité, ils vont plutôt se mobiliser sur ce qui leur paraît, sur ce qui leur apparaît comme des enjeux saillants. Alors, j'ai choisi de commencer, donc je disais très brièvement, par vous exposer cet argument, parce que je pense qu'il est quand même empreint d'un pas mal de bon sens, et je crois que c'est important de commencer une discussion sur la nature démocratique de l'Union européenne, en commençant peut-être par relativiser ce qui est un peu la tarte à la crème des débats sur la question, cette tarte à la crème du déficit démocratique, et en tentant de montrer que l'Union européenne ne souffre peut-être pas du quart de la moitié des défauts qu'on lui attribue. En même temps, là où je m'écarte de ce courant de pensée, c'est qu'il a un petit peu l'air de considérer, je suis d'accord avec le diagnostic, mais là où je diffère d'eux, c'est qu'ils ont un petit peu l'air de considérer que finalement tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, l'Union européenne fonctionne bien comme cela, et il n'est pas nécessaire de s'interroger plus avant sur l'approfondissement de la démocratie européenne, et je dirais un petit peu fermer le banc. Et c'est pourquoi j'aimerais compléter cette démarche, cette thèse, par une réflexion relative à la citoyenneté européenne ou à la citoyenneté européenne comme laboratoire. Parce que je le disais, là où je m'écarte de ce courant de pensée, c'est que je pense qu'on ne peut pas, comme eux le font, on ne peut pas considérer l'Union européenne exclusivement comme une union d'États. On ne peut pas considérer qu'elle est exclusivement vouée à la régulation d'un grand marché. L'Union européenne, c'est une union d'États, bien sûr, mais qui a aussi des conséquences, des implications directes pour les citoyens. Nous sommes tous des sujets de droit européen. Donc, je la définirais plutôt comme une union d'États et de peuples, ou comme une fédération de peuples. Et je pense que l'exemple le plus significatif de cette fédération de peuples, c'est peut-être celui de la citoyenneté européenne. Mais ici, pour comprendre peut-être ce qui se joue avec la construction européenne, il est important de distinguer au moins deux formes de citoyenneté. Pierre Rosanvallon, quand il a ouvert ce forum, nous invitait au fond à démultiplier, à compliquer la démocratie pour mieux l'approfondir. Et je pense qu'effectivement, penser la démocratie européenne, ça veut dire compliquer, démultiplier nos représentations de la citoyenneté. Parce qu'il y a la citoyenneté entendue dans son sens électoral, dans son sens, c'est peut-être le sens le plus immédiat, la citoyenneté telle qu'elle s'articule autour de l'élection à travers les mécanismes délibératifs et représentatifs. De ce point de vue-là, c'est vrai que la citoyenneté européenne, elle est décevante. On a beau avoir considérablement augmenté les pouvoirs du Parlement européen, les élections européennes ne suscitent que très peu d'intérêt, ça reste des débats exclusivement nationaux, on ne voit pas émerger quelque chose comme une sphère publique européenne. Mais il y a une autre dimension de la citoyenneté, au-delà de cette citoyenneté élective, citoyenneté électorale, qui se définit par l'extension progressive des droits à de nouvelles catégories de population, approfondissement des droits individuels et des droits collectifs. Et de ce point de vue-là, je crois vraiment que la citoyenneté européenne, si on l'envisage sous cet angle, elle a acquis une véritable substance. Que ce soit dans le cadre de l'Union européenne strictement parlée, avec le principe d'égalité des droits entre Européens, le fait que si vous vous déplacez aujourd'hui dans un autre État que le vôtre, vous allez jouir de quasiment l'intégralité des droits qui sont reconnus aux nationaux de l'État dans lequel vous vous installez. Ou que ce soit dans le cadre du Conseil de l'Europe, avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui permet de faire sanctionner ces droits à l'encontre même de son propre État. Et je crois beaucoup que l'approfondissement de la démocratie européenne, elle passe d'abord par cette forme de citoyenneté-là, par cette poursuite du mouvement d'extension des droits. Mais à condition, et c'est une distinction capitale, enfin c'est, je pense que c'est assez capital, d'insister sur le fait que cette distinction que je tracerai entre la citoyenneté comme participation au mécanisme représentatif et la citoyenneté comme extension des droits ne recoupe pas du tout une distinction entre une citoyenneté qui serait active, qui serait fondée sur la participation à la vie politique, sur le primat de l'intérêt général, sur une sorte de... et d'un autre côté, une citoyenneté qui serait purement passive, définie simplement par la jouissance des droits. Je ne crois pas, parce que réclamer des droits, les faire sanctionner, c'est directement politique. Claude Lefort est l'invité d'honneur de ce forum. C'est quand même à lui qu'on doit d'avoir montré le caractère émancipateur, socialisateur et donc éminemment politique des luttes pour les droits de l'homme. Quand les mineurs italiens, les migrants italiens ont obtenu, installés en Belgique, ont réussi à obtenir, devant la Cour européenne de justice, la reconnaissance de l'égalité des droits avec les travailleurs belges pour le calcul de leur pension, par exemple, c'était une lutte politique. Quand des associations se mobilisent aujourd'hui pour obtenir, par exemple, l'extension de l'ensemble des acquis de la citoyenneté européenne et donc la reconnaissance de l'égalité des droits aux non-européens, installés sur le territoire de l'Union, c'est également une action politique, c'est une action qui se fait avec d'autres et pour d'autres. Et de même, j'étais hier à la table ronde sur la question de l'immigration, ceux qui se mobilisent aujourd'hui, par exemple, contre les directives européennes sur le rapatriement des immigrés illégaux, les fameuses directives recours, y mènent aussi des actions politiques. Et je crois beaucoup plus à ces formes de mobilisation en quelque sorte transnationale, pour approfondir la construction européenne dans le sens d'une communauté de droit, que c'est vrai dans la construction d'un vaste espace représentatif à l'échelon européen, vaste espace qui s'appuierait sur des partis politiques transfrontières, sur une culture politique commune, voire sur une deuxième langue commune à tous, et donc sur simplement la transposition des mécanismes de la démocratie nationale à l'échelon européen. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, Michel Rocard, pouvez-vous nous dire comment vous réagissez à cette présentation et plus largement ce que vous inspire ce thème de la réinvention de la démocratie ?
Quand mon vieux copain Pierre Rosanvallon, ici présent, est coupable, a gravement perturbé ma tranquillité en me demandant de faire le tour par ici, je me suis immédiatement heurté dans ma tête à un problème. Quel rapport il y a entre la grande question de revitaliser, réinventer, vous osez dire, la démocratie et l'aventure européenne? Et je craignais beaucoup, je ne connaissais pas Justine Lacroix, je craignais beaucoup d'avoir à exprimer un désaccord puissant. Pas du tout. Nous sommes plus proches des analyses que je ne pouvais le penser. Reste quand même que je suis dans un état de scepticisme et sur l'Europe et sur la question de la revitalisation de la démocratie, j'aime quand même mieux ce mot, que je vais être obligé de les évoquer un peu tous les deux. Par lequel commencer ? J'ai une intuition de fond sur le problème de la revitalisation de la démocratie qui est que la question de savoir comment magnifier l'intérêt de l'opinion, réveiller des enthousiasmes, attirer au regard et à la participation sur les activités démocratiques une masse de gens qui aujourd'hui s'en éloignent est une question presque seconde par rapport à celle de savoir si ce qu'on fait quand on est en politique et qu'on pratique la démocratie présente un intérêt ou pas. C'est le fond de l'affaire et ce sera le guide de ma réflexion. Mais je vais commencer, j'ai un quart d'heure, ce qui est assez grotesque sur des sujets pareils, mais on est beaucoup et je crois aux droits de l'homme et donc aux droits des autres d'avoir le même temps de parole. Et donc vous n'entendrez pas des raisonnements, c'est pas possible, vous n'entendrez que des affirmations, vous ferez ce que vous voudrez avec elles, et probablement incomplètes et insuffisantes. S'agissant de l'Europe, d'abord j'ai pris un plaisir vigoureux à entendre le superbe lapsus de Justine Lacroix à ce moment-là, dans ses deux premières minutes, elle vous décrivait les instruments de démocratie qui font qu'il y a en Europe et qu'il y a plusieurs pouvoirs. Et tout le monde avait dans la tête que la séparation des pouvoirs et Montesquieu allait être citée, ce n'était pas la peine, c'était l'allusion à ça. Et donc il y avait la Commission, le Conseil des ministres, la Cour de justice, et elle a oublié le Parlement. Ce qui m'a fait un plaisir inouï, au sens freudien, de goûter un lapsus, bien entendu. Je sors de 14 ans et demi de Parlement européen, ce qui m'a donné sur tout ça un regard... Attention, le fait qu'il l'ait oublié n'implique pas qu'il y ait contradiction à le réintroduire. Il avait tout à fait sa place dans tout son propos. Tout ça est magnifique. Mais 14 ans de Parlement européen m'obligent à vous rappeler quand même qu'il y a une historicité ainsi là-dedans. Et je ne peux pas ne pas rappeler ici puissamment que l'espoir d'une fédération ou d'une union d'États se conduisant comme une puissance publique unique au sens diplomatique, stratégique, militaire, est mort, a été tué en 5 assassinats successifs, les traités de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice, le projet de constitution et le projet de Lisbonne. Tout ça à l'initiative et dans la continuité de la Grande-Bretagne, et qu'il n'y a plus d'Europe politique, nous continuons à être incapables d'avoir le même regard sur nos relations avec les États-Unis, la même façon de traiter le problème de l'invasion américaine de l'Irak, et il n'y a pas de discours européen commun sur comment s'adresser, comment faire avec la Chine, quand même une grosse affaire, et comment surtout mettre un terme à ce retour de la Russie à la méfiance, largement de notre fait d'ailleurs. L'Europe ne parle pas, ne sait pas, il n'y a rien de tout ça. Quant à l'intégration de notre modèle économique et social, je rappelle que suite aux freins anglais, il faut toujours l'unanimité pour un mouvement sur la fiscalité et toujours l'unanimité pour faire bouger le droit du travail dans ces structures essentielles. Alors, et puis enfin, le Conseil des ministres du mois de mai ou juin 2007 s'est permis un crime contre l'Europe. Je n'hésite pas sur les formulations. Et mon choix de mots est lié aussi au fait que je voudrais vous rendre conscient du fait qu'à propos d'Europe, nous sommes victimes d'un politiquement correct, hypocrite ou mensonger à propos de l'Europe, qui fait qu'on ne dit pas les choses. Le fait que l'Europe politique soit morte est une incongruité ou une impolitesse. C'est pourtant, madame la professeure de droit et de politologie, une vérité que j'ai consommée tous les jours pendant 10 ans. De la même façon, quand le Conseil des ministres, dans une Europe qui s'est habituée à traiter ses problèmes financiers, ses problèmes budgétaires, par tranche de 7 années... De suite, nous faisons un budget pluriannuel évolutif, moderne, intelligent, c'est bien meilleur que nos démocraties nationales. Mais quand le Conseil des ministres décide que ce sera limité à 1% du produit brut européen, il décide de ne même pas assurer le financement de la fin des réformes de politique agricole déjà acquises, de laisser 40% du financement de Galiléo incertain, et d'interdire pour 7 ans toute nouvelle politique dans l'horizon européen. Crime contre l'Europe. Et la diplomatie, la politique européenne d'aujourd'hui, quant à sa substance, tout ce qu'a dit Justine est juste et au point que j'ai eu plaisir à approuver méthodologiquement ce qu'elle a dit. Mais souvenez-vous que tout est dans la substance, nous ne faisons qu'une espèce de défensive un peu seconde pour essayer de rattraper quelques attributions des institutions devant les pouvoirs gouvernementaux, toujours en train de reconquérir leur territoire. Et en illustrant qu'il n'y a toujours pas de défense européenne en dehors de l'humanitaire, qu'il n'y a toujours pas de diplomatie européenne, bien entendu, sauf un peu au Moyen-Orient, parce que nous avons 30 ans d'histoire, nous ont fait tomber d'accord en gros, mais nulle part ailleurs, et que donc l'Europe n'existe guère. Dans ces conditions, mesdames, messieurs, chers amis, je me demande qui peut s'intéresser à tout ça. C'est une affaire d'héroïsme que de continuer à suivre des bagarres d'arrière-garde où il y a des coups fourrés partout et qu'on comprend très peu parce que on aperçoit au fond que notre infini effort, il est très continu et très courageux, de fournir des normes et des standards à l'intégration de nos façons d'être, de nos standards de vie, de nos standards de sécurité, etc. C'est tout ce que nous faisons. comme il y a beaucoup à faire et que nous sommes 550 millions d'habitants, ça fait du boulot, ça suffit à occuper Parlement et Conseil, mais ça ne va pas plus loin. L'Europe est sans projet politique et du coup, on ne voit vraiment pas comment l'opinion s'y réintéresserait, même si les rudiments, les laisses de basse-mère de cette aventure européenne nous laissent en effet des éléments de citoyenneté européenne qui ne sont pas du tout négligeables. Je suis très fier d'avoir un passeport identique à celui de la communauté. Quand on est parqué ensemble, ça crée déjà un petit peu d'identité. Reconnaissons que ça ne va quand même pas très loin. Cette façon de regarder les choses m'amène à dire qu'avant de se poser le problème de réinventer la démocratie à travers de nouvelles procédures, à travers la multiplication de l'usage du référendum, ou la démocratie participative, ou un jeu plus significatif que Internet, toute chose sympathique dont je suis prêt à suivre l'effort, je crois que nous devrions, dans cet ordre d'idées, investiguer d'abord le champ de la reconstruction des ruines en matière de fonctionnement démocratique, de ce qui se fait déjà un peu. Et je veux élargir à d'autres sujets le drame européen. Je m'aperçois, prenez les problèmes de politique locale, les seuls d'ailleurs sur lesquels s'applique avec permanence le concept de démocratie participative. Nous perdons, j'ai été 18 ans maire aussi, nous perdons un temps gigantesque sur des bagarres de pouvoir qui n'intéressent que les détenteurs du dit pouvoir et non pas nos électeurs. Qui commande dans une agglomération? Est-ce qu'on peut traiter l'enlèvement des ordures ménagères, le système de transport, l'éclairage municipal autrement qu'au plan de l'agglomération tout entière? Comme nous avons été incapables de mettre en place le pouvoir d'agglomération, on se bat à ce sujet. Cette bataille est d'un désintérêt démocratique profond. Il est extrêmement difficile pédagogiquement d'y intéresser les électeurs. Et prenez le problème de la région parisienne. On a raté, on faisait quand même des communautés urbaines à Strasbourg, à Grenoble, à Bordeaux, dans quelques autres lieux. À Paris, on a raté toute communauté urbaine. 1500 maires ont chacun chez lui le pouvoir d'urbanisme au nom duquel on pourra ou pourra pas faire des instruments de corrélation commune. Je dis ça simplement pour dire le fait de savoir s'il existe ou pas du pouvoir, un pouvoir susceptible d'être exercé d'une part et d'être mis en place et contrôlé d'autre part, ce qu'est le problème de la démocratie, ou pas, sur les espaces pertinents, est la grande affaire. Et la bataille pour retrouver des espaces pertinents serait au fond la bataille pour retrouver un objet à la critique démocratique. Mais tant que dans l'organisation des pouvoirs locaux, nous nous battons pour savoir qui commande et nous échangeons des commentaires et des mails incroyables et illisibles parce qu'il n'y a pas de complémentarité claire des pouvoirs, c'est affreux. Et de la même façon, sur les grandes affaires du monde, le fait que le Conseil des ministres ait finalement réussi à assassiner sur proposition anglaise, l'émergence de l'Europe politique fait que il n'y a pas de lieu clair où se décide notre avenir dans des conditions démocratiquement soumises à discussion. L'exemple le plus frappant, le plus vital à mes yeux, c'est qu'il y a, c'était en 11 ou 12, quelque chose comme ça. Ça nous fait un peu plus d'une quinzaine d'années. Un jour, le pacte de Varsovie est dissous. Le pacte de Varsovie est dissous. Vous vous rendez compte de la nouvelle? Bon, on savait que l'Union soviétique s'effondrait. Dans les deux mois, les États-Unis font savoir qu'on maintiendra le pacte atlantique. Et pire que ça, on va offrir l'adhésion à des anciens membres de l'Union des républiques socialistes soviétiques et à des voisins de la dite Union soviétique. Ce qui revenait à dire à la Russie, vous pouvez devenir démocrate si vous voulez, on s'en fout, vous êtes russe, nous nous méfierons de vous à longueur de siècle. C'est ça que ça a voulu dire. L'humiliation reçue par tous, par Gorbatchev d'abord, mais l'humiliation prise en charge par Poutine nous crée ce monde fou de réarmement hyperactif maintenant et de méfiance généralisée. Personne en Europe n'a ouvert la bouche à ce sujet. Nous n'avons rien discuté. L'Europe n'a pas existé. L'Europe n'a pas existé et aucune de nos diplomaties nationales n'a existé là-dessus non plus. Il faut bien dire que la compétence de la presse sur ces matières n'a pas été telle qu'elle a largement ouvert le débat. C'est, voilà où nous en sommes. Merci de souligner, c'est pour moi relativement gravissime. Mais prenez même l'existence de la crise économique, la crise dans laquelle nous venons de vivre. L'Europe a fait une réapparition relativement forte. En fait, il n'y a pas eu de réapparition européenne. Il y a eu le constat que lorsque la faillite de la banque Lehman Brothers a amené au constat de l'ensemble du diagnostic, tout le monde a compris que c'était gravissime et que ça n'avait plus rien à voir avec les petites mini-récessions temporaires qu'on avait connues dans les années précédentes. Et que l'Europe, bien sûr, deuxième zone économique de la planète, ou même première, elle est peut-être la première concernée. L'Europe n'en dit rien, mes amis. Il n'y a pas un commentaire, il n'y a pas une déclaration de la Commission, il n'y a pas une intervention du président de la Commission. Le Conseil des ministres n'est pas saisi. Ce qui s'est passé, c'est du hasard. Le hasard que la présidence de l'Union européenne à ce moment-là tombe entre les mains de la France, le hasard qu'un président vigoureux, impulsif, colérique, comprend que là où il avait appris de l'économie, c'est-à-dire près d'Alain Madelin et au nom de la doctrine de l'optimalité des marchés, n'était que du vent et que ça collait pas, et que l'intelligence de ce président non dogmatique fait qu'il comprend en 24 heures et qu'il assume le fait de faire dire à l'Europe, laquelle a suivi sans vraiment discuter, des choses qui ont abouti au premier G20, c'est-à-dire une correction un peu plus correcte. L'Europe a repris un poids parce qu'elle est grosse, parce qu'elle existe, parce qu'elle a une culture commune de la régulation et notamment de la sécurité sociale, qui n'est pas une culture américaine. C'est même tout ça qui me fait penser que l'Europe a une très grande vocation pour demain. Mais elle a servi à rien là-dedans. Le hasard a voulu que l'Europe rassemblée, quand elle a un chef d'État qui a du culot, alors, il fallait du culot pour prendre le risque de dénoncer tout ça, consolider un redémarrage européen. Mais malheureusement, vous comprenez bien que le fonctionnement démocratique dans cette affaire, il n'a pas beaucoup marché. Alors, c'est après ces remarques très pessimistes sur l'Europe que je voudrais continuer un tout petit peu mon propos en revenant sur le problème de réinventer la démocratie. Je ferai simplement d'abord une référence, je vais 30 secondes, qu'on se souvienne qu'il y a un livre, Benjamin Barber, un prof de droit public américain, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Démocratie forte ». Démocratie forte, c'est un plaidoyer. L'analyse du thème central, c'est que la démocratie classique telle que nous la vivons est plutôt faible. Et tout le cœur du bouquin, c'est pourquoi est-elle faible. Et il fait cette remarque que la démocratie représentative s'est inventée dans l'histoire de l'humanité à peu près en même temps et pour les mêmes raisons, non seulement que la liberté de la presse, et il y a une progression conjointe des deux, mais aussi que l'économie politique. Et la démocratie représentative est conçue comme un océan de rationalité pour faire de la place à l'expression rationnelle des choix de Homo economicus. Et la personne humaine, dans ses autres dimensions, de prestige, d'affliction, de colère, de souvenirs immatériels et passionnel est abandonné dans cette affaire. Alors, vous voyez, Barber, à mon avis, Barber, ce bouquin, « Démocratie forte » est une des clés de réflexion nécessaires pour le champ que vous avez choisi pour cette réunion. Et il rend compte du fait que, par exemple, on a connu dans l'histoire partout des gens qui se battaient et qui se faisaient tuer pour défendre la démocratie. Pologne, dernier exemple sous la fin du stalinisme. Et une fois que la démocratie et le suffrage universel s'installent en Pologne, la Pologne ne met pas 4 ans avant de retrouver des taux de participation électorale en peut-être moitié par rapport à ceux des premiers jours. Il y a une non-réponse des institutions et des procédures de la démocratie à la densité de la personne humaine elle-même qu'il faut analyser un peu plus. Je crois en plus qu'il faut évoquer encore les idées qu'on s'en fait. Ce que je viens de vous dire de l'OTAN et de la Russie montre qu'il lui fallut réfléchir. Je ne résiste pas ici à l'envie, ça va me faire des histoires, je vais me faire engueuler, de rappeler une controverse qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait avancer intellectuellement. Nous avons eu des élections présidentielles il n'y a pas très longtemps, et à cette occasion, je m'étais permis, gravité, de questionner les capacités de synthèse intellectuelle de tel ou tel candidat, y compris dans mon camp. Je me suis fait... Je vous en prie, n'applaudissez pas là, ce serait d'un mauvais goût achevé. Bon. Je me suis fait engueuler comme pas possible pour cette mise en cause de principes démocratiques. Et j'ai regardé qui m'engueulait, et notamment de vieux amis à moi. Et l'engueulade sur cette mise en cause d'une insuffisance intellectuelle venait du monde du commentaire de la politique, du monde des gens qui nous observent et nous regardent faire et nous commentent. Et je suis obligé de vous dire que j'ai vu là une espèce d'insulte collective de ce milieu à l'idée que je me faisais moi de mon métier. Les mots qui venaient saluer d'une grande bienvenue, c'était « fraîcheur », c'était « nouveauté ». Deux mots dont je n'avais pas grand-chose à faire pour voir comment traiter soit la crise économique et financière, soit le problème de nos relations internationales avec la Russie. Et j'ai compris qu'il y avait une tolérance à la vacuité de la politique dès l'instant qu'elle faisait du spectacle. Mon temps de parole n'est pas tel que je puisse en citer beaucoup. Je voudrais simplement vous donner ce morceau de cette substance pour réfléchir dessus, que si c'est ça, si c'est l'enjeu de la recherche d'une réinvention de la démocratie, moi j'en suis pas, je vais me terrer dans mon coin et prendre ma retraite peinarde. Nous changeons de monde. J'ai au contraire la conviction, s'agissant du réchauffement climatique, à l'évidence, s'agissant de traiter l'émergence de deux nouveaux pays, la Chine à 1,3 milliard d'habitants, l'Inde a déjà plus d'un milliard, pour retrouver statut normal et part normale des échanges dans le monde, aux dépens des autres, que l'effort intellectuel et de long terme est naturellement gigantesque. Et que si on n'est pas capable de le faire, l'idée de réinventer de la démocratie dans les procédures de contrôle de décisions imbéciles ou mauvaises n'intéressera pas grand monde. Ce qui m'amène à prolonger la réflexion en y mettant en cause les médias. Beaucoup de mes collègues professionnels en politique se plaignent des journalistes pour avoir été maltraités. Bon, c'est complètement idiot, on a conquis la liberté de la presse pour éviter ça, il n'y a pas de rapport. Mais je crains que depuis que l'image a pris le contrôle de tous nos foyers et de nos têtes, ce que produit le système médiatique, c'est un, que les médias mineurs, en dessous de la télévision, comme la radio et surtout la presse écrite, ne sont plus en position de contrebattre radio ou presse écrite dans la formation des mentalités collectives. C'est l'image qui régit nos perceptions majeures. Et l'image a cette caractéristique de ne pas faire travailler les mêmes neurones que l'œil, qu'un texte écrit. Elle va très vite et elle occulte un peu tout. Et on ne zappe pas, on supporte l'image à condition qu'elle apporte toujours de l'émotion, du dramatique, du conflictuel. De cette réalité au nom de laquelle c'est l'image qui a dominé le monde contemporain dans la façon de ressentir ce qui est important et ce qui ne l'est pas, sont évacuées la complexité et la longue durée. Nous devenons événementiels. Et la réflexion sur la longue durée disparaît des perceptions de l'opinion publique de base. Mon sentiment, chers amis, c'est que si on veut réinventer la démocratie, c'est là qu'est l'affaire. Tout travail politique, toute responsabilité politique ne prend de sens que sur le long terme, bien entendu. Sur ce qui se passe à court terme, on est en général les héritiers de ses prédécesseurs et on calfeutre et on colmate les dégâts. Il n'y a que sur le long terme qu'on peut construire, et pour recevoir une adhésion intellectuelle à ce qu'on construit, ben, il faut évidemment qu'on puisse échanger à propos et du long terme et de la complexité qui sont les rejetés du système médiatique actuel. Mon temps de parole est en train de s'épuiser, c'est dommage parce que j'aimerais donner des exemples de tout ça. Prenez un problème comme celui de la Turquie. Tout le monde en France a échangé des symboles, des haines, des crispations, des hantises nationalistes ou xénophobes. Mais qui a pris connaissance et qui, à la télé, nous a informés de la longue histoire des genres de langues qu'on parle dans les régions d'à côté, qui sont des dialectes turcophones, de la géographie pétrolière, où la zone du Caucase est la seconde zone de réserve du monde après l'Arabie saoudite, pas encore tout à fait exploitée, il faudrait bien qu'on travaille avec eux, et surtout des raisons pour lesquelles la Turquie a besoin d'un petit coup de main international pour sortir de blocages, Chypre, les Kurdes, l'Arménie, héritée de son histoire, et que faute de tradition démocratique, elle ne sait pas sortir elle-même. Nous nous permettons en France à ce sujet des assauts de haine, de rejet, qui sont là-bas belligènes. Nous avons rajouté de la méfiance et de l'insécurité par refus du long terme, du complexe, etc., etc. C'est tout cela qui me rend extrêmement pessimiste, d'abord sur le sauvetage de l'Europe. Dans la crise économique actuelle, personne ne peut plus exclure d'abord que des pays sortant de la crise avec des situations budgétaires extrêmement différentes, Allemagne par rapport à France ou Belgique par exemple, et se retrouvent dans une crise qui continue. Il y a de quoi faire sauter l'euro. L'euro n'a pas de corps institutionnel de défense collective. Personne ne vous le dit. De la même façon d'ailleurs que personne n'a souligné à quel point jusqu'à présent, l'euro, tant qu'il tient le coup, a été formidablement protecteur. Mais cette protection, elle disparaît et nous sommes renvoyés à des images trop court terme, nationales, trop chaleureuses, et qu'il faudrait dominer pour essayer de reconstruire un peu de démocratie. Si bien que ma conclusion, c'est qu'il faut réinvestir intellectuellement la politique. Ce qui s'y passe n'a pas lieu à être seulement représentatif à la proportionnelle des pulsions, des fantasmes ou des haines de notre corps électoral, il faut construire de l'avenir et cela suppose de tout autre attitude et de tout autre raisonnement, alors qu'actuellement, notre public de démocrates frustrés est plutôt contemplatif d'une érosion, contemplatif d'un affaiblissement et pas du tout inventeur d'une nouvelle forme de vie. Alors qu'entre la frugalité dans laquelle il faudrait venir pour ne plus émettre de gaz à effet de serre, la place des Chinois et des Indiens à 25 ou 30% du commerce mondial et tout ça, il y a du chantier pour redonner du sens à la politique. Mais l'Europe est une bonne occasion de ce chantier et j'ai entendu dans ce qu'a dit Justine Lacroix au moins les ouvertures qui permettraient de revaloriser ce chantier-là, mais à condition de faire l'effort de reconquête intellectuelle de la politique, ce que la télévision d'aujourd'hui ne nous aidera pas à faire. Pardonnez-moi de mon pessimisme.
Merci Michel Rocard. Alors juste avant de prendre les premières questions de la salle, je vais donner la parole brièvement à Justine Lacroix pour qu'elle réagisse et j'observe ensuite pour vous donner la parole.
Oui, merci beaucoup. Je crois que nos points de vue sont à la fois complémentaires et différents parce que vous êtes un acteur de la construction européenne, ce que je ne suis pas. Juste ce qui me frappait, moi, du point de vue de ma réflexion sur l'Europe, c'est quand vous avez commencé en disant finalement l'idéal fédéraliste est mort. Et ensuite, vous enchaînez avec un diagnostic très pessimiste sur l'Europe politique. Et ça m'a quand même conduit à me penser... Bien sûr, mais à soulever la question, j'ai un peu le sentiment que finalement, ce pessimisme sur l'Europe politique, il est alimenté quand même par l'idée qu'il ne pourrait y avoir Europe politique que si, d'une façon ou d'une autre, il y avait une forme d'État fédéral à l'échelle de l'Union européenne, avec une défense unique, un État social européen, auquel je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça que les peuples souhaitent. Et ce que j'essayais de penser, c'est pour ça que je disais, on est complémentaires, on n'est pas forcément en opposition, c'est dire peut-être, même s'il n'y a pas... Mon but n'est pas ici de défendre la construction européenne, je ne suis pas une de ces actrices, mais je veux dire, il me semble qu'il y a aussi matière à penser le politique au-delà, en deçà de la figure de l'État fédéral. Et que peut-être il y a aussi une Europe politique qui existe, même si nous n'avons pas une défense commune, même si nous n'avons pas d'État social européen, même si la plupart, la question de, pour reprendre les termes de Pierre-Rosan Vallon, la question de l'intégration du social reste aux mains des États-nations, même si l'Europe ne peut pas se substituer à cet effort-là, il y a quand même matière aux politiques. Et juste une remarque sur la citoyenneté européenne, vous avez dit, bon... C'est bien, c'est ce que j'entends quand même souvent dire, c'est sympathique, moi j'ai un passeport européen, mais enfin, ça ne va pas très loin. Oui, bien sûr, pour moi, ça ne va pas très loin. Quand je vais en Grande-Bretagne, je montre ma carte d'identité, quand je vais en France, je ne la montre pas. Mais pour les migrants, encore une fois, les Portugais, les Italiens, qui ont obtenu l'égalité d'accès à l'emploi, l'égalité dans le calcul des pensions, l'égalité en matière de retraite, c'était pas rien. Pour les Polonais, les Hongrois, les Bulgares, demain, ce ne sera pas rien. Et je pense que c'est aussi des acquis qui font aussi que l'Europe est politique.
Bravo. Heureusement que vous êtes là. S'il pouvait y avoir un malentendu, je ne vous ai pas une seconde dit qu'on n'avait rien fait ni que ça servait à rien. Vous n'avez tout de même pas entendu ça. Et c'est vrai, du point de vue déjà, de l'impossibilité physique de se faire la guerre entre nous. Après un millénaire de guerre, l'Europe est un miracle. Et c'est vrai qu'elle tire vers le haut en matière de droits de l'homme. Vous avez complètement raison là-dessus. Complètement raison. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'en ce début de 21e siècle, le monde rencontre une masse de menaces et de dangers en aggravation inhabituelle. Prolifération des armes de destruction massive, changement climatique, crise économique qui montre que notre capitalisme n'est toujours pas régulé ni régulable facilement, surtout qu'on ne sait pas très bien comment, terrorisme, une contestation mondiale prenant d'autres formes, tout ça à la fois... plus une vraie difficulté à organiser pouvoirs locaux et pouvoirs centraux dans l'art de faire ça pas mal. Je crains beaucoup l'incapacité de nos démocraties contemporaines à trouver les clés d'une négociation internationale permanente permettant de trouver les clés de tout ça. Voilà pourquoi je suis pessimiste et voilà pourquoi je regrette que l'Europe là n'existe pas. Mais rassurez-vous, j'ai jamais raté un vote au Parlement européen qui permette un petit pas de plus vers l'intégration européenne. Intellectuellement, nous sommes d'accord. Complètement. Mais mon diagnostic, il est terrible. Si cette crise économique et financière où nous sommes n'est pas vite étanchéifiée, enfin, l'euro n'est pas assuré. L'euro est menacé. Et tout ça. Or, il n'y a pas d'instrument de défense. Et donc, je maintiens mon inquiétude, mais mon inquiétude n'a jamais voulu dire qu'on n'avait rien fait. C'est un chemin miraculeux, déjà. Et d'ailleurs, si on sort bien de la crise, ce sera grâce à l'intelligence collective qu'il y a eu au G20, et donc grâce à l'Europe. Non, il faut équilibrer les jugements. Nous faisons face à un niveau de menace qu'on n'a jamais eu, auquel on n'est pas du tout habitué, pour lequel nous n'avons pas les instruments de traitement, mais la phase qui vient de sortir est déjà inouïe. On est sorti quand même de la folie des nationalismes belligènes et meurtriers du 19e et de l'essentiel du 20e siècle, et grâce à l'Europe. Ne me transformez pas en pessimiste indécrottable.
Alors, je pense que les micros sont... sorti. Alors, on va prendre peut-être plusieurs questions parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer par ce côté-là. Non, oui, là-bas, d'accord. Ouais.
Bonjour, Stéphanie Novak. Monsieur le Premier ministre,
j'ai été. Je priais que vous parliez fort et lentement. Je suis devenu sourd, c'est là. Oui. C'est bête, hein, c'est agaçant, mais c'est comme ça.
Monsieur le Premier ministre, j'ai été très intéressée par votre intervention et par cette expérience dont vous nous avez fait part. Et je souhaiterais vous poser une question sur la transparence de la prise de décision dans l'Union européenne, et plus particulièrement sur le Conseil de l'Union européenne, étant donné le rôle majeur qu'il joue dans l'adoption des directives et des règlements. Je souhaiterais savoir en fait quel bilan vous faites en tant que parlementaire européen, de la politique de transparence du Conseil de l'Union européenne, qui a commencé en 92-93. Est-ce que vous estimez que l'activité du Conseil est mieux connue qu'il y a 10 ans, étant donné son rôle majeur dans l'activité législative? Et est-ce que vous pensez que la prise de décision puisse vraiment devenir plus transparente à ce niveau intergouvernemental?
Merci. Alors, pour laisser le temps de réfléchir à la réponse, on va prendre peut-être d'autres questions devant, là, si le micro peut descendre, ou s'il y en a un. Ah oui.
Oui, merci pour vos interventions. Je voulais vous poser deux questions. Une première qui est liée un peu à un sentiment paradoxal à vous entendre. C'est qu'à la fois, on est à un moment où on n'a jamais eu autant besoin d'Europe, puisque l'ensemble des thématiques que vous avez abordées sur la question de la crise du capitalisme, la question environnementale, ne peuvent en réalité être traitées qu'à l'échelle européenne. Et que, de l'autre côté, à un mois des élections, le débat européen est singulièrement atone. Et beaucoup de citoyens ont l'impression que parfois on a peu de raisons d'aller se déplacer. Je voulais donc avoir votre avis un peu là-dessus et comment on peut expliquer ce déphasage complet entre l'importance que prend la question européenne pour traiter l'ensemble de ces questions auxquelles toutes les sociétés européennes ont été confrontées au même moment et ce relatif désintérêt pour les élections qui viennent dans un mois. Puis la deuxième question, c'est liée à la question de la réappropriation de thèmes démocratiques à l'échelle européenne.
Attendez un peu, j'ai mal entendu. Non, mais répétez-la.
Ah oui, non, c'est... Le paradoxe, c'est les défis que vous avez identifiés. Ouais. C'est probablement à l'échelle européenne qu'on pourra les régler.
Oui.
Et en même temps, vous êtes vous-même sceptique sur la possibilité de l'Europe de réagir. Donc vous aviez d'ailleurs une réflexion sur les échelles territoriales. Est-ce que l'Europe n'est pas justement la bonne échelle?
Puis juste rapidement, bon. Je ne sais pas si ça marche là.
Si,
ça marche, oui. Juste une deuxième question rapide. Quand même, la question de la citoyenneté qui a été abordée par Justine Lacroix. Est-ce que aujourd'hui, une des objectifs qui pourrait mobiliser les opinions publiques sur la question de l'Europe ne pourrait pas être l'instauration d'un impôt européen, puisque la question de l'impôt est fondamentale pour créer toute communauté démocratique?
Merci. Alors, on va laisser Michel Rocard répondre.
Vous ne souhaitez pas répondre, Justine?
Justine,
je
commence
par l'impôt européen.
Bon. À l'évidence, l'Europe répondait à un besoin d'abord de faire la paix entre nous.
Merci.
La greffe par-dessus d'une intention de bâtir une puissance publique un peu cohérente n'allait pas de soi et n'était pas dans tous les rêves fondateurs. Quand vous dites, si j'ai bien compris, que les choses non faites, les difficultés sont apparues au niveau européen, que c'est bien au niveau européen qu'il faut les traiter, vous avez raison. Un des éléments de ce qui me reste d'optimisme au niveau européen tient maintenant à ce que l'Europe a pris une taille telle, on est 540 millions de consommateurs, on a unifié le jeu commercial, économique et financier chez nous à peu près, les règles sont les mêmes, on hésite. Il n'y a pas de règle d'harmonisation fiscale, mais il y a une inhibition des gouvernements à creuser les différences quand même. Donc on a une avance dans ce sens, et nous avons une tâche telle que je pense que pour l'avenir, l'organe va créer la fonction. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à propos de la crise économique. Cette Europe qui était en pleine crise, quand même... La crise économique. Les deux premiers pays à déclarer des choses, c'est l'Irlande et l'Allemagne. Hein ? Et l'Irlande, dès qu'elle constate que son système bancaire est beaucoup plus atteint que les autres parce qu'une anglophilie déchaînée les a fait jouer les produits dérivés plus que les copains, et qu'elle était engagée pour trois fois ou quatre fois son PIB, l'Irlande dit « Je vais faire appel au fonds public pour sauver mes déposants », ce qui, moi, ne me choque pas, mais qui est contraire au traité. Et l'Irlande ne dit pas « je vais aller demander la permission à Bruxelles ». Donc un grave coup de canif dans le contrat. Et l'Irlande dit ensuite « je vais organiser la garantie des déposants irlandais dans les banques irlandaises sur les fonds publics irlandais ». C'est de l'anti-européisme à l'extrême. C'est même le coup de poignard dans le contrat européen. par excellence. C'est d'autant plus surprenant et inquiétant que l'Irlande est de très très loin, tous azimuts et sans discussion possible, le plus grand bénéficiaire de l'aventure européenne qu'il y ait eu historiquement. Quand elle est rentrée, elle était le plus pauvre, en compétition un peu avec la Grèce, qui ne va entrer que juste après, le plus pauvre des pays membres de l'Union. Elle est maintenant le second dans la richesse par tête, juste après le Luxembourg et bien avant nous. Elle a rattrapé tout ça par un bénéfice des procédures officielles de l'Europe, plus un dumping fiscal dégueulasse, mais permis quand même. Et l'Europe, dès que la crise arrive, l'Irlande dit « Je ne jouerai pas européen, allez vous faire voir ». C'est pas sympa. Ce que voyant la belle Angela Merkel dit « L'Irlande, c'est scandaleux. Il est inacceptable qu'on porte remède à une situation dramatique de finances publiques, avec des fonds publics, le traité européen l'interdit. Pourquoi elle dit ça? Elle a vécu dans l'Allemagne de l'Est. Elle a passé 30 ans dans cette philosophie selon laquelle les deux mots de État et de communisme, ou de État et de parti communiste, étaient synonymes. Pour Madame Merkel, quand la puissance publique, l'État, remet son nez quelque part, c'est le stalinisme qui réapparaît. Il faut comprendre. Bon, elle manque un peu. Elle est en train de le prendre à toute allure. Il lui a manqué une ouverture culturelle pour comprendre plus vite. Mais elle l'a vécu comme ça. Et donc elle explose quand l'Irlande fait ça, en disant le traité a été d'esprit libéral, il interdit que les États se servent de fonds publics pour relancer les banques privées, c'est bien comme ça. Et puis elle ajoute, moi je ne ferai pas ça, mes problèmes bancaires, je vais les régler entre détenteurs de capitaux privés. Et elle ajoute, elle reconfirme la faute irlandaise pour l'Allemagne, mais je ne veux pas que les contribuables allemands soient taxés pour aider des déposants menacés dans leurs dépôts, dans les banques allemandes, qui ne seraient pas allemands. On va jouer entre Allemands. Vous vous souvenez de ça? Ça se passe le premier week-end de septembre 2007. Formidable! Donc voilà les deux, et l'Allemagne aussi a quand même tiré quelques bénéfices de l'Europe. Le départ, c'est dès qu'il y a la crise, l'Europe, je m'assieds dessus. Ça qui s'est passé. Et puis Mme Merkel a manqué de chance à un point assez grave, qui est qu'elle n'a pas eu 48 heures pour respirer. Elle fait ses déclarations tonitruantes qui cassent l'espoir, le premier espoir Sarkozy, d'un plan de relance européen pour lutter contre la crise. Septembre 2007, ok ? Elle fait ça, puis elle rentre chez elle. Et dans le week-end, elle apprend qu'il y a deux nouvelles grandes banques allemandes en faillite. Et puis ses conseillers, ses banquiers conseillers, mais aussi ses conseillers administratifs, lui disent « Madame, il n'y aura pas assez de capitaux privés. » Nous ne ferons pas sans les fonds publics. Ah. Et puis, Madame la chancelière, il n'y a plus de pertinence à isoler pour les garantir les déposants allemands des autres. On est dans un truc intégré, Madame. Ce sont donc les marchés qui ont rappelé à Angela Merkel que l'Europe existait et qui l'ont amené la semaine d'après. Vous vous souvenez, ça a été... Pour le commentateur de presse, une semaine fabuleuse, tout le monde valsait, toutes les idées se refaisaient, et Mme Merkel a eu, en gros, 3 jours pour changer d'avis et revenir demander un plan d'intervention européen et donner son accord au fait que les fonds publics allaient être rappelés pour traiter la crise. Et c'est ça qui a permis à l'Europe de, par hasard, et parce qu'il y avait un culotté qui a ouvert la voie, qui s'appelle Sarkozy, et un social-démocrate planqué, qui avait dans la tête toute la culture nécessaire pour tenir la plume, mais qu'il avait abandonné. Ce type s'appelle Gordon Brown. Il a vécu comme un social-démocrate, il a appliqué, et il a passé son adolescence et sa jeunesse à demander plus de justice fiscale et plus de considération pour les gens pauvres, etc. Puis il a fait de la politique, il est devenu ministre travailliste des Finances en Grande-Bretagne, et il a eu le choc. Ça marche décidément pas mal, leur capitalisme financier. Vraiment, ça marche pas mal. Et puisque ça marche si bien, pas question de faire renoncer la Grande-Bretagne au leadership de la finance mondiale. Et Gordon Brown privatise à gogo, scientifique qu'il est, ayant l'impression de tenir la démonstration que ce système était meilleur que celui de sa jeunesse. Mais quand ça craque, quand les 14 prix Nobel d'économie qu'il avait reçus pour cause de monétarisme sombrent dans la perplexité, comment ça se fait ? Quand c'est Alain Madelin, je cite Alain Madelin parce qu'il est le prototype, il est le grand théoricien du monétarisme français. Sur le plan privé, cet homme est charmant. Ce fut au Parlement européen un bon complice et nous nous battions pour le passeport de la liberté. Donc ce que je veux dire n'est pas des méchancetés. Mais enfin, il est le prototype du penseur de ce système. Il est sombré dans un silence définitif, on ne l'a plus entendu pendant deux ans. Puis, non, mais ça se comprend. Le système ne marchait pas. Ce qui se passe, attendez un peu, c'est pas fini, c'est pas là qu'il faut applaudir, c'est Gordon Brown. Gordon Brown, il a mis 48 heures à comprendre. Bon sang, ce que ces types m'ont fait faire depuis 10 ans, ça marche pas, c'est idiot. Et au fond, mon maître Keynes, il tenait debout autrement. Et il avait, lui, dans la tête, à la différence des Français venus de la tentative Alain Madelin de redonner une cohérence de pensée économique au libéralisme dans la droite française sous l'héritage de De Gaulle. Voilà ce que ça a représenté. Évidemment, ça ne pouvait pas coller avec la situation. C'est pour ça que c'est Gordon Brown qui a tenu la plume au G20. Et cette convergence étonnante entre une cervelle qui s'est rappelée il y a de grandes permanences dans la culture économique quand même, et dans cette ville en particulier, a eu lieu le grand débat Mendès contre Michel Debré en 1956. Grenoble est une des étapes dans la confrontation des grandes batailles théoriques où nous essayons de tenir devant la financiarisation du monde. Gordon Brown, il n'a pas eu de mal à s'y retrouver, et voilà ce qui a permis une réapparition miraculeuse et inattendue de l'Europe. Alors, par rapport à la question qui vient d'être posée, j'ai tendance à dire que ça peut être pareil. Je ne crois pas, je pense, à l'efficacité, à la bonne marche de nos institutions dans les temps qui viennent, mais je pense que l'organe créera la fonction, que l'existence de l'Europe ne nous interdit de faire comme si nous n'étions pas la première économie de la planète, et comme si, en plus, nous n'étions pas une économie de la planète moins massacrée par la phase déréglementariste, la phase dérégulante, si vous voulez, parce que nous avons tenu à préserver nos institutions de protection sociale, qui sont des facteurs équilibrants. Donc je crois que, comme vous l'avez dit, les bêtises, les choses non faites au niveau européen seront à traiter au niveau européen. C'est vrai, on est encore moins bien équipé pour le faire au niveau international, mais il est sûr que... Alors, c'est un pari. Obama est capable d'analyser toute la nature et l'ampleur des folies et des fautes, enfin des crimes, faites par Bush avant lui. Obama va chercher une réconciliation avec la Russie. Mais il y a un establishment américain. Il y a eu une hystérésis chez eux. Et puis il y a des images. Parce que c'est quand même les Américains qui ont fait le mauvais coup. Il y aurait un boulevard pour l'Europe à reconstruire cette fraternité mondiale, cette confiance diplomatique suffisante, disons. Mais on peut ne pas le faire. On verra bien. En tout cas, j'aime que vous le disiez, c'est en effet au niveau européen que ça va, qu'on va trouver les réponses ou qu'on ne les trouvera pas. Votre deuxième question portait sur l'existence éventuelle d'un impôt européen. Un des drames dans lesquels nous sommes, c'est que nulle part il n'y a eu dans la fabrication européenne d'instruments d'extension de pouvoir. Prenez la mécanique européenne de l'origine, le traité de Rome. On a recopié les institutions qui venaient de la CECA. Ni sur le plan du choix des hommes et de leur puissance, il n'y a de place à l'Europe. Les commissaires sont toujours choisis par les États nationaux avec veto des uns sur les autres. Nos présidents de commission sont soumis au veto. Et ça fait 20 ans, 3 ou 4 décisions, que l'Angleterre met son veto à ce qu'émerge, par exemple, de Haine ou quelques autres, des hommes européens de caractère. faut l'avoir, la diplomatie anglaise. C'est quand même du limpide. De la même façon, le fait que le budget européen est 1% de notre produit brut interdit que se développe une activité européenne buissonnante, créant ses propres succursales, ses propres vocations à grandir. On ne fait rien avec 1%. Et donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Quant à un impôt européen, vous n'y pensez pas. Tous nos gouvernements, jusqu'à présent, refusaient par tous les bouts. Alors, nous en rêvons, mais j'attire votre... Moi, j'en ai beaucoup rêvé. J'ai signé 25 manifestes pour le demander. Et ça serait survie de la planète. Il faudrait faire la taxe carbone en impôt européen. Mais pour le moment, mes chers amis, c'est gentil d'applaudir, mais il faut aller bousculer le Parlement allemand et puis les parlements scandinaves. Pour le moment, le Conseil des ministres en Europe a une majorité de gouvernements qui ne voient que la perte de leur propre pouvoir à chaque pas en avant vers l'intégration européenne et qui s'opposent avec victoire à chaque projet d'étape de plus vers l'intégration européenne. Il faut observer et il faut oser le dire. Je parle ici un langage qui est, je pense, celui de la vérité des actes votés et des textes, mais qui n'est pas celui du politiquement acceptable à nos antennes de télé ou dans nos rédactions de journaux pour rester accepté par le rédacteur en chef et continuer à produire. C'est scandaleux. Il faut quand même que l'Europe vienne sous radiographie et qu'on sache pourquoi des gens sont en train de la tuer. Et le vieil Européen que je suis est obligé de vous dire, s'ils arrivent vraiment à la tuer, on pourra même se refaire la guerre entre nous quand on sera en vrai désaccord sur des choses aussi graves que la manière de traiter le monde arabe et musulman ou la Chine.
Sur la transparence du Conseil.
Alors, la transparence... Bon, on est pour... Quel est le problème? Le problème, c'est que la démocratie, elle est née en Grande-Bretagne et en France autour du Parlement, et que dans la fonction parlementaire, le fait que le Parlement vote la loi, vote le budget, et empêche l'arbitraire royal de faire n'importe quoi, s'accompagnait d'une condition formelle absolue, qui était la publicité des débats. Donc la transparence, l'ouverture à la transparence. Par ailleurs... Tout au cours du 19e et du 20e siècle, s'est consolidé en Europe le concept qu'on a en plus essaimé pour son plus grand drame dans le reste du monde, qui est le concept d'État-nation. Et dans ce concept d'État-nation, il est admis que le Conseil des ministres délibère secrètement. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des mauvais coups, des histoires de services spéciaux, des histoires d'espionnage. Voilà. C'est pas agréable. La délibération du Conseil des ministres, le monde entier, est acceptée comme secrète. Vient la construction européenne avec cette bizarrerie que les inventeurs du projet décident qu'il y aura, ce sera un système législatif bicaméral, mais que les deux chambres qui font la loi sur le plan européen, l'une c'est la chambre basse, c'est le Parlement européen, et l'autre, curieusement, c'est le Conseil des ministres. L'Europe est un des cas rarissimes, je crois même que c'est le seul au monde, où le Conseil des ministres a un pouvoir législatif. Mais, quand on a voté ça, c'est déjà dans la haute autorité de la CECA, et c'est encore dans le traité de Rome, on a oublié, dans l'écriture du traité, de déclarer publicité obligatoire des travaux du Conseil des ministres quand il délibère comme législateur. Et voilà donc, chers amis, que l'Europe représente une régression démocratique par rapport au principe reçu il y a deux siècles, qui était qu'aucun législateur nulle part ne saurait délibérer en secret, qu'il faut que les députés qui votent la loi rendent compte, bien sûr, de leur vote. Tandis qu'il y a toujours le secret des délibérations du Conseil des ministres, y compris quand il délibère comme législateur et pas comme exécutif. Son ordre du jour est distinct, on le sait, mais là, il n'y a pas de transparence. Alors ça, c'est parfaitement scandaleux et redoutable. Pour le reste... Nous avons un niveau de démocratie acceptable à peu près par rapport à l'Europe, par rapport à nos pays de base, mais cette obscurité-là est terrifiante. Les travaux préparatoires à la loi seront donc inconnus. Il y a le monsieur qui... Enfin, il y a plein de demandes de parole partout.
Si les micros peuvent circuler... Alors, il y a deux personnes là en face de moi. On va prendre vos deux questions successivement. Et si vous voulez bien être bref, ça permettra de donner plus la parole.
Oui, bonjour. Je vais être assez bref. Il y a un message que tout le monde peut voir difficilement. Sur tous les chèques de banque, il y a un message subliminal. C'est-à-dire, il y a écrit « l'Europe se fera, l'Europe ne se fera pas ». C'est une ligne qui vous sert de support d'écriture. Bon, a priori, vous ne le voyez pas, mais l'objectif d'un message subliminal, c'est que ça rentre dans votre cerveau à votre insu. Donc, la question aujourd'hui que tout le monde se pose, comment toutes les banques ont pu se concerter pour écrire depuis plus de 5 ans exactement le même message sur tous les chèques de banque. Aujourd'hui, faut-il pas se poser la question, est-ce que c'est pas l'intérêt du capital d'abord de pousser à l'Europe en ayant justement utilisé ce support-là pour pousser un maximum de gens à leur insu à être pour l'Europe?
Bon, merci de votre question. Je n'ai pas remarqué ça personnellement. Monsieur?
Oui. Oui, je voulais poser la question, quelle proposition, quelle orientation faudrait faire pour renforcer l'euro et que l'euro devienne une vraie monnaie internationale?
J'ai une question. Que l'euro devienne quoi, une?
Alors, oui, monsieur. Allez-y, on vous entend.
Oui, moi, je vais avoir une question à poser à Michel Rocard et une à Justine Lacroix. La question à Michel Rocard, c'est est-il toujours pour une Europe politique à 27, point d'interrogation? C'est-à-dire qu'on prétend que les gens qui sont pour la Turquie sont pas pour une Europe politique, mais pour une Europe de marché. Et la question que j'adresse à Justine Lacroix, c'est une question qui concerne le Parlement européen, puisqu'on parle des institutions démocratiques. Et il me semble quand même que le Parlement européen a des pouvoirs et a un potentiel qui permet de peser réellement sur les décisions qui sont prises. Et on est à un mois des élections. Il faut que vous réussissiez à motiver tous les gens qui sont dans la salle d'aller voter aux élections européennes, en tenant compte, bien sûr, des programmes et des personnes qui vont porter ces programmes.
Merci. Justine Lacroix.
Oui, merci de votre incitation. Je peux essayer de répondre à votre question au Parlement européen. Je ne suis pas là pour défendre le vote aux élections européennes. Vous avez tout à fait raison de souligner, peut-être que, mais je pense que c'est de plus en plus largement perçu. C'est vrai que le Parlement européen a gagné de plus en plus de pouvoir. Peut-être que Michel Rocard ne sera pas tout à fait d'accord, mais enfin, si on revient à 20 ans d'écart, le Parlement européen, que ce soit en pouvoir d'amendement ou comme co-législateur, est devenu un acteur principal du processus de décision. Moi, la question, dire comment, pour autant, on constate que les gens, c'est vrai, se mobilise peu autour des élections européennes, mais là, ça renvoie peut-être à la question qui était posée tout à l'heure, la question aussi de l'impôt européen. Je pense qu'il y a quand même... Je me demande parfois, avec l'Europe, si on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs, si on a l'impression que les institutions vont créer la démocratie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas de donner plus de pouvoir au Parlement européen, il ne suffit pas de multiplier les opportunités de participation, de représentation, pour que les gens soient motivés. Encore une fois, pour que les gens soient motivés, c'est qu'il faut un sentiment, si vous voulez, qu'il y a là quelque chose qui se joue de crucial pour leur vie quotidienne. Et ça pose... Et donc, je pense qu'il y a une certaine cohérence, il y a une cohérence évidente pour ceux qui réclament une plus grande forme de redistribution sociale à l'échelon européen. Ben oui, ça suppose à ce moment-là de penser à un impôt européen. On ne peut pas avoir l'un sans penser l'autre. Et donc, moi, la difficulté, c'est de dire oui, allez voter, bien sûr, allez voter, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de fétichisme de l'élection autour du Parlement européen, alors que le vrai problème, c'est quand même la question de savoir quelle substance est-ce qu'on donne au projet politique européen, quelle compétence est-ce qu'on donne à l'Union, parce que les gens se déplaceront là-dessus.
Michel Rocard, il y a deux questions. Comment renforcer l'euro? L'euro peut-il devenir une monnaie mondiale? Et d'autre part, finalement, n'êtes-vous pas devenu britannique en nous disant l'Europe comme acteur unique, ça ne marche plus à cause des Britanniques? Mais du coup, je suis pour l'entrée de la Turquie et donc grand marché.
Ok. Laissez-moi commencer en disant mon plein accord avec ce que vient de dire Justine Lacroix. Mais je passe aux deux questions-là. Alors, comment renforcer l'euro? Pour le moment, le problème est d'éviter qu'il soit atteint. Il est en pleine puissance. Il est en pleine puissance. Cette monnaie a été créée, a été mise en place le 1er janvier 2001, je crois. Je ne sais plus. Les billets, les pièces. Mais nous étions... 2002. Mais nous étions en rigidité de change depuis 1999. C'est donc depuis 1999 et l'automaticité d'échange sans limite que l'euro s'installe. Il est devenu déjà la première monnaie d'émission mondiale des emprunts publics, des emprunts d'État. Déjà. Et il est devenu de très très loin, écrasant le yen et quelques autres sur son passage, la deuxième monnaie de réserve dans les systèmes de devises de l'ensemble des banques centrales derrière le dollar. Au point que les périodes de chute un peu rapide du dollar sont inquiétantes parce qu'il suffit d'une petite accélération de ce mouvement chez la Banque centrale du Japon et surtout celle de la Chine, qui en a quatre fois autant, ou celle des pétroliers, pour s'écarter un peu plus du dollar et placer leurs réserves un peu plus en euros pour créer des déficits hyper dangereux. Le problème... C'est que, et puis en plus l'évolution des cours, il est maintenant, on est à 0,10, enfin je ne sais plus très bien, il s'est bien défendu. La petite chute récente est compatible avec le fait qu'il a dépassé le dollar depuis longtemps, ce qui était incertain au début. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement de la zone euro. Et les difficultés de l'euro vont pas être du tout des difficultés de comparaison de parité des monnaies. Ça va être les difficultés de tenir ensemble des économies qui vont avoir des divergences tout à fait considérables, notamment à cause de leur endettement. Et nous risquons fort de passer de la phase d'incertitude bancaire, où nous sommes aujourd'hui devant la crise bancaire que nous sommes, dans une phase de consolidation lente, mais avec la charge pour chacun de refaire son équilibre chez lui. Or, l'Allemagne, très peu endettée, elle a eu une gestion meilleure que celle que nous avons depuis une dizaine d'années, hein. Très peu endettée, va être dans cette affaire suravantagée par rapport avec les Pays-Bas, suravantagée par rapport aux pays à endettement extrêmement fort. Alors, il y a pire que la France, il y a la Belgique et l'Italie. Mais la France, c'est quand même la plus visible et la plus grosse. Et c'est cette contradiction entre les intérêts monétaires à court terme de ces différents pays qui peut très bien mettre l'euro sous des pressions effrayantes et conduire les gouvernements à souhaiter ne plus y rester parce que le prix du maintien dans l'orthodoxie monétaire unique, qui est un prix en limitation de ce qu'on pourra faire budgétairement et fiscalement, pour paraître trop grand à telle ou telle nation. C'est ça le problème. Donc on n'a pas à renforcer l'euro, on a à sortir de la crise vite et à essayer de créer au contraire un gouvernement de la zone euro. Mais ce gouvernement de la zone euro, personne n'en veut parce que nos gouvernements défendent le précaré de leurs attributions locales. Cela étant, la folie qu'il y aurait à faire ça est telle que je pense que ça révulserait l'opinion publique. Ça commence à se voir que les pays en dehors de la zone euro, les trois pays baltes, le Danemark, l'Irlande, non, l'Irlande elle est même dedans, pardon, l'Islande, qui est beaucoup plus loin, et puis la Suède au fond, s'aperçoivent que leur situation financière propre est infiniment plus grave que s'ils étaient dans la zone euro où ils auraient été protégés. Et c'est même vrai de la Grande-Bretagne. Et Gordon Brown est certainement l'expert le plus capable de le découvrir tout seul, de le deviner à travers ses statistiques et d'en tirer les conclusions. Donc, l'euro n'est pas une variable, sauf si ça craque, l'euro n'est pas une variable monétaire dans cette affaire, l'euro est un des outils de sortie de crise, d'une certaine façon. Mais elle est déjà monnaie internationale, elle ne l'est presque que trop. Et la fureur diplomatique internationale américaine et anglaise contre l'existence même de l'euro, qui est plus, maintenant plus que potentiellement un rival et un substitut tout à fait possible du dollar, On a ça devant nous. Dans une demi-douzaine d'années, si nous avons fait une sortie de crise pas trop bousculée, il est clair que pour y arriver, il aura fallu mettre sur pied un système de change international qui nous permette d'avoir des changes à peu près fixes et qui sera géré par une rencontre mensuelle des gérants du dollar, de l'euro, du yuan chinois et du yen japonais. Et ça s'arbitrera comme ça. On se portera d'autant mieux d'ailleurs qu'on aura poussé l'affaire de la taxe carbone, l'affaire de sortir le pétrole du système monétaire courant et d'affecter au traitement du pétrole un système fiscal et monétaire particulier à cause de nos dangers d'effet de serre. Si on arrive à ça, le système monétaire européen sera soumis à de moindres brutalités et de moindres changements, et ça peut tenir pas mal. Mais mon sentiment, chers amis, puisqu'on en est là, c'est que, un, le président Obama pourra avaler beaucoup de choses, mais sûrement pas ça, contre quoi il se battra jusqu'au bout, et que par conséquent, cette nécessité que soutiendront les Japonais, mais surtout les Chinois, il n'y a que l'Europe qui peut la faire avaler, or elle n'a pas de volonté politique, elle n'a pas la légitimité pour prendre en charge une idée au nom d'un pouvoir sur 140 millions d'habitants qui auraient donné leur accord, d'un pouvoir qui dirait qu'il faut changer complètement le système monétaire mondial et l'euro, il a toute sa place parce qu'il est plus stable que vos fadaises de déficit américain en dollars. Et donc, on ne sait pas bien comment on va y aller puisque le porteur, à cause de la taille et puis aussi de la sagesse de l'expérience de régulation, sécurité sociale, impôts, après tout, moins de spéculation qu'aux États-Unis. Il y a une relative sagesse de l'impôt. Tout ça porte l'euro bien au-delà de ce que la structure politique qu'il y a derrière le système européen permet de dire et de faire. Je ne sais pas comment on en sortira. Je ne suis pas très sûr d'avoir été bien clair, là. Ah, la Turquie. Alors, vous êtes drôle, vous. La question a été formulée, si j'ai bien compris, et si elle avait été bien comprise, puisque je l'ai mal entendue. Vous êtes devenu britannique. Alors, je ne suis pas du tout devenu britannique, et je continue dans chaque vote sur un sujet touchant l'intégration européenne à voter contre, à formuler cette analyse, et surtout à la dire, et le seul fait de la dire, est pris comme une insulte par les citoyens de Sa Majesté britannique. Bon, il faudra quand même qu'ils s'y fassent. Mais ils ont gagné. C'est complètement idiot de me dire à moi que je suis devenu britannique. C'est notre Europe qui est devenue britannique. Elle est une zone de libre-échange avec une coordination fiscale et pas beaucoup plus. Et nous travaillons beaucoup pour unifier toutes nos normes parce qu'on est très gros, c'est vrai. Nous ne sommes pas plus que ça. L'Europe n'est pas devenue... Mais il faut les comprendre, les Anglais. Ça fait un millénaire que, vu du continent, il ne leur arrive que des empoisonnements. D'abord les épidémies, ensuite les guerres, des menaces d'invasion. Et puis quand même, ce continent, c'est un continent de barbares. Qui a inventé la démocratie ? L'Angleterre, sous la forme de l'élection d'un parlement qui empêche le roi de faire n'importe quoi et qui donne un contrôle du peuple, des représentants du peuple, sur la vie royale. Combien de temps divers Européens ont mis à imiter ça ? Un bon siècle et demi. Qui a inventé l'habeas corpus, le premier des droits de l'homme ? L'interdiction faite à l'appareil d'État de mettre en prison quelqu'un pour 24 heures seulement, sans le présenter à un juge. C'est le premier des droits de l'homme. Qui a inventé ça ? Les Anglais. Combien de temps les autres ont mis à le recopier ? 3-4 siècles, c'est pas fini, tout le monde y est pas. Même en France, nous ne sommes pas capables. Pour un Anglais, le continent n'est qu'un ensemble de barbares. Et Adolf Hitler a confirmé ça, et ces diables de Français se sont agenouillés devant tellement ils ont été battus vite. Ça, bon, redore pas la pile. Il faut tout de même voir ce qu'il peut y avoir dans les cultures. Et par conséquent, l'Angleterre a comme politique étrangère depuis un demi-millénaire de s'allier systématiquement avec la puissance militaire numéro 2 du continent pour contribuer à éroder militairement le poids de la plus dangereuse. Et la permutation circulaire tourne, il y a eu les Russes, les Allemands, les Français, tout le monde. Même les Suédois une fois. Puis ça commence d'ailleurs avec Charles XII de Suède, contre. C'est ça la politique anglaise. Alors quand l'Europe joue à se faire, après la dernière guerre mondiale, au moment où nous fusionnons nos industries du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne pour rendre la guerre impossible, les Anglais sourient, n'en parlent pas, ils disent bravo, c'est bien, ça nous fera moins d'empoisonnement à venir de la part du continent. C'est pas bête. L'idée d'en être ne les concerne pas. Quand on joue l'épisode de la communauté européenne de défense, super idée proposée par les Français, qu'une fois qu'elle est mise en place et qu'elle a reçu l'approbation des 5 autres pays fondateurs, plus des États-Unis qui la soutiennent à fond, c'est l'Assemblée nationale française qui casse l'idée. L'Angleterre rigole et continue à se dire, c'est bien toujours pareil, les Européens, il n'y a décidément pas grand danger. Et puis arrive la communauté économique européenne. Et là, l'ambition est tout autre, et elle est bien, elle est dite, de faire les États-Unis d'Europe, de faire une fédération européenne. C'est ce que disent les Jean Monnet, les Robert Schuman. Panique en Grande-Bretagne. Il faut, si vous avez un doute là-dessus, il y a du travail universitaire à aller rechercher des rubriques de presse et d'édito. La panique. Cette bande de barbares prétend nous donner des ordres et devenir un ensemble unique. Et l'Angleterre se déchaîne dans un combat insensé pour essayer d'empêcher ça. Ça arrive jusqu'à l'absurdité de la zone européenne de libre-échange, dont il reste un bâtiment à Bruxelles que nous saluons avec le sourire, et où siègent ensemble l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. C'est poétique, ça. Et l'Angleterre avait donné naissance à cet ensemble auquel s'ajoutaient les autres Scandinaves pour essayer de créer un ensemble douanier plus grand dans lequel les volontés intégratrices, politiquement intégratrices, des fondateurs allemands, français, italiens, belges, se dilueraient. Et puis ça a foiré. L'Angleterre a échoué. Et c'est parce qu'elle a échoué qu'elle a demandé à devenir membre. Alors là, il faut rappeler qu'un grand Européen avait tout compris, il s'appelle Charles de Gaulle. Et devant cette première demande britannique qui remonte à 1963, de Gaulle dit sobrement qu'ils sont beaucoup plus Américains qu'ils ne sont Britanniques. En tout cas, on n'a jamais vu les Anglais être Européens, c'est non. Vous avez donc avec la Grande-Bretagne l'unique cas dans l'histoire, l'unique jusqu'à présent, où un pays qui a demandé à adhérer à la communauté économique européenne se l'est vu refuser. C'est naturellement, tout le monde suit sur ça dans l'oreille des Turcs au jour d'aujourd'hui. Humiliation anglaise, et puis ça continue, et le démarrage de la communauté économique européenne est un triomphe. La croissance s'accélère dans tous les coins, les Allemands et les Français qui s'aimaient comme des Hutus et des Tutsis. Ce qu'on appelle civilisation était un grand progrès dans l'art de tuer, mais pas dans les sentiments quand même. Dans les sentiments, c'est l'apprentissage de la gestion qu'on a fait ensemble qui nous a mariés, et pour la stupéfaction du monde entier. Tout le monde veut en être, mais ça marche très fort. L'Angleterre marine dans le refus du général de Gaulle est furieuse et elle repose sa candidature, je ne sais plus si c'est décembre 68 ou si c'est début 69. De Gaulle redit non, mais il y a des procédures, il y a des étapes, il dit non à une première étape de la procédure qui n'est pas conclusive. Et puis dans un référendum suicidaire, de Gaulle perd le pouvoir et il est remplacé par le président Pompidou, qui non seulement n'avait pas son culot ni sa vision, mais n'avait pas non plus son système d'analyse. Et Pompidou dit oui, et on bâcle en 6 mois des négociations. C'est les plus rapides et les plus mal faites qu'on ait jamais négociées. Il faut arrêter. Et bien voilà. Mais depuis l'arrivée de la Grande-Bretagne, on n'a plus jamais connu un pas en avant. Je m'excuse de devoir vous dire que le club à la britannique, il est notre truc. Et dans ces conditions, nous ne sommes plus à l'abri de voir les Turcs peser sur un consensus interne pour faire de la politique étrangère. Nos nations sont préservées. Profitons-en. L'Europe n'est plus une affaire fédérale, elle est un club de nations s'étant donné les mêmes règles du jeu en matière de démocratie et en matière de régulation des échanges. Pas plus. Mais quand on est 550 millions et la plus grosse économie du monde, la régulation des échanges, c'est évidemment énorme. Mais nous ne sommes pas plus que ça. Or, dans les bagarres pour l'unification, pour la stabilisation du système financier demain, ça va être un problème de rapport de force avec le dollar. Nous avons besoin des Turcs parce qu'ils sont 80 millions, 70 millions, et que c'est un grand marché. Et nous avons aussi besoin des Turcs parce qu'on parle turc dans la zone pétrolière juste à côté, et que leur influence à eux dans l'héritage Kirghizistan, dans le Kazakhstan, etc., l'héritage mafieux du post-soviétisme, si la Turquie se met à faire de l'europhobie, nous serons interdits d'accès dans toute cette zone. Si la Turquie se met à faire de l'europhilie, c'est une facilitation formidable. Et puis la Turquie a eu l'intelligence, elle a une grande armée, et l'intelligence de mener une politique de vraie médiation amicale et de neutralité à égalité de qualité de relation avec les Arabes comme avec Israël, qui fait ses manœuvres militaires sur le territoire turc. J'en veux beaucoup aux quelques dirigeants politiques français qui ont cassé le truc pour faire plaisir à un électorat démagogue et xénophobe. C'est une l'irréflexion et ça puait la haine.
Merci. Merci à tous. Merci à Justine Lacroix et à Michel Rocard. Je me permets.